Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du commentaire de la paracha par Harold Avraham Weil, comme chaque vendredi, monsieur le grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cette semaine. Nous lirons la paracha de Chayei Sarah, l'allumage des bougies à 16h26 et demain la fin du Shabbat 17h37. Les horaires sont valables uniquement pour Strasbourg et sa région. Notons que cette semaine, ce sera Rosh Chodesh qui se lève, mercredi soir, jeudi et vendredi. Qui se lève, c'est le mois évidemment de Hanouka. Et comme chaque semaine, on va souhaiter nos voeux de refoua shelema pour nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées qui sont nombreux à nous écouter. Monsieur le grand rabbin, longue semaine pour vous qui vient de se dérouler. Un petit mot en une minute chrono, je vérifie l'horloge. Un petit bilan sur le Shabbat mondial.
Vous êtes dur avec moi, Jean, vous êtes dur. On va essayer de le faire en une minute. Écoutez, ça s'est vraiment très très bien passé. Je crois que chaque événement a été une réussite. Depuis la Khalabek, hein, qui s'est jouée à guichet fermé. C'était le mercredi soir qui a précédé le Shabbat Project. Deux très belles soirées pour nos jeunes. Soirée pizza pour les plus jeunes et soirée burger pour les jeunes actifs. Ça, c'était jeudi soir, c'était aussi merveilleux. Très, très bel office du vendredi soir. Alors, après beaucoup, on était encore plus nombreux que les années précédentes. En tout cas, très belle ambiance à la Grande Synagogue vendredi soir pour l'office en commun. Et je remercie encore nos chazanim Nathan Wolf et Yoel Ben Simon pour le très très beau Shabbat et le très bel office. Très belle bakashot aussi, le Shabbat matin, pour ceux qui ont participé. On a eu beaucoup de courageux, hein, une bonne centaine de personnes qui se sont levées tôt Shabbat matin pour assister au bakashot à 6h30 du matin à Rambam, dans une ambiance très conviviale. Et puis, excellente aussi intervention, et je tiens encore à le remercier, de notre invité, le professeur Alain Toledano, qui a été très brillant, aussi bien le vendredi soir que le Shabbat matin et à Seouda Shlichit, et ce Shabbat Project donc, qui s'est terminé. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas été plus nombreux, parce que c'était un concert d'une très belle intensité. On est quand même 200 personnes pour le concert de la Avdala Project à Motsei Shabbat, c'est avec nos amis David Gerst et Avi Wayon, et de très très bons musiciens. C'était un très beau moment.
Sacré décor aussi, hein.
Tout à fait, exactement.
Le soir avec des bougies. Voilà, qui
exactement, c'était vraiment une ambiance vraiment très, très chaleureuse sur le thème de la Havdalah, des chansons qui tournaient un petit peu autour du thème de la Havdalah, avec une participation aussi active du public.
Alors un petit mot également sur la conférence des rabbins européens qui a lieu cette semaine à Bucarest. Vous y étiez. Qu'est-ce qui en ressort de ces réunions et de cette réunion cette année à Bucarest?
Alors, il en est ressorti beaucoup de choses. Vous le savez, nous avons un certain nombre de sujets que nous partageons en commun, tous les rabbins européens, notamment, bien sûr, certains sujets qui reviennent de manière assez régulière, comme tout ce qui tourne autour de la liberté de l'atteinte, plutôt liberté religieuse. Et alors, on pense bien sûr à la Brit Mila, on pense à la Shrita. Alors, il faut savoir qu'en matière de Shrita, c'est que la Roumanie n'a pas de législation claire à ce sujet. Donc, la Shrita est permise, tout simplement parce qu'elle n'est pas interdite par la législation. Et nous avons été reçus en grande pompe au Parlement roumain, Parlement de Bucarest, qui est quelque chose de... Enfin, qu'il faut absolument visiter une fois dans sa vie, je pense. C'est le plus grand bâtiment administratif du monde, hein. C'est toute la folie et la mégalomanie de Ceausescu qui s'exprime au travers de ce bâtiment. Et nous y avons été reçus par le président lui-même, en personne, président du Parlement. Nous y avons également rencontré un certain nombre de ministres, dont le ministre de la Justice. Et figurez-vous, Jean, qu'il a été ratifié lors de cette rencontre au Parlement, une loi qui sera prochainement validé par les députés eux-mêmes. Il y a 330 députés au Parlement roumain pour autoriser et protéger tout simplement la Shrita. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi pour l'instant, ni dans un sens ni dans un autre. Donc la Shrita, de facto, était autorisée. Mais les autorités ont voulu aller plus loin en protégeant la Shrita et en ratifiant une loi qui, elle, autorise de manière pérenne la Shrita, de manière à ce qu'on ne puisse plus toucher à cette autorisation.
Alors, des très belles photos dans le Shabbat Shalom, vous verrez de quoi vous parlez. Vous avez, je crois, rencontré des responsables ukrainiens. pendant cette réunion.
Tout à fait. Et c'était sans doute le moment le plus émouvant de ce congrès et de ce voyage, même si chaque moment a été intense en soi. Nous nous sommes rendus mercredi, toute la journée de mercredi, à 3 heures de route de Bucarest, donc Bucarest étant déjà à l'est de la Roumanie. Et on s'est rendus dans une station balnéaire, vraiment sur les bords de la mer Noire, quelques dizaines de kilomètres au sud de la Moldavie, dans une petite station qui s'appelle Neptune, et qui a accueilli, donc c'est une station balnéaire qu'il faut imaginer vraiment déserte en période hivernale, hein, puisque les Roumains s'y rendent pour les vacances, j'imagine, du mois de mai, juin jusqu'au mois de septembre. Et donc dans ce village quasi désert, bien s'est installé au début de la guerre, hein, fin février, début mars dernier, la communauté ou une grande partie de la communauté juive d'Odessa, encore 1200 personnes, communauté Tikva, dirigée par les rabbins Bakht et Kruskal. Et en 24 heures, ils ont dû faire leur bagage et partir avec très très peu d'affaires en autocar, fuir les bombardements russes pour se rendre. Pour se rendre en Roumanie, ils ont réussi à traverser la frontière avec l'aide des autorités roumaines et ils se sont installés sur la côte dans cette petite ville. Et ils ont tout reconstruit en matière de vie juive dans cette ville. Exactement. Alors ils se sont installés, des hôtels vides ont été réquisitionnés pour placer les familles et on a recréé une intendance, bien sûr tout ce qu'il faut en matière de cuisine et de nourriture pour nourrir plus de 1000 personnes par jour et préparer ses repas. Un mikvé très rapidement qui a été reconstruit en 2 mois et demi, des écoles, il fallait absolument offrir bien des cours à près de 400 élèves, hein, il faut imaginer depuis la crèche jusqu'à la terminale. Et donc ces écoles ont été recréées avec des préfabriqués, avec l'installation de classes et de moyens extrêmement professionnels. Hein. Il y a beaucoup de moyens digitaux dont nous n'avons même pas le bonheur de pouvoir les utiliser en France, que nous n'avons pas le bonheur de pouvoir utiliser en France. Donc ils sont même en avance sur nous en matière de technologie. Et une synagogue, bien sûr une très grande synagogue qui a été reconstruite dans le palais des congrès local, ainsi qu'une yeshiva, et j'en passe, vraiment il faut le voir pour le croire. Il y a beaucoup de photos qui circulent, beaucoup également de petits films qui ont été faits à ce moment-là. Il y avait un certain nombre de journalistes avec nous, mais je vous le dis à ce micro, ça ne traduit qu'une partie de la réalité. Vraiment, si vous ne le voyez pas de vos propres yeux, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente.
On parle de la paracha de cette semaine, si
vous voulez bien. On parle de la paracha de cette
semaine. Chaye Sara.
Avec grand plaisir, la paracha Chaye Sara, qui porte mal son nom, j'allais dire Jean, puisque Chaye Sara, qui veut dire la vie de Sara, ou les vies de Sara, alors que cette paracha commence par nous parler de la mort de Sara, dans des conditions dont on dira peut-être quelques mots dans un instant. La mort de Sara, qui est un moment important, puisque Sara est un personnage de première importance, de premier plan, en tant que première matriarche dans l'histoire du peuple d'Israël, la naissance bien sûr qu'elle a donnée à Yitzhak. Et donc on va nous parler à la fois de son décès et des efforts investis par Abraham pour lui acheter une sépulture digne de ce nom. Puis toute la partie de la paracha, hein, hormis ce premier passage, hein, la quasi-totalité de la paracha, sera consacrée à la demande qu'Abraham va faire à son fidèle serviteur Eliezer pour aller chercher une épouse pour Yitzhak, pour son fils Yitzhak. Abraham s'inquiète bien sûr du devenir du clan d'Israël, hein, même s'il n'existe pas encore en tant que tel, mais on est déjà dans les prémices finalement de ce que sera le peuple d'Israël. Il a compris qu'Yitzhak, son fils, n'était pas n'importe qui, était un maillon très, très solide, on va dire, de cette chaîne qui est en train de se mettre en place, et qu'il fallait lui trouver une épouse qui puisse répondre à un certain nombre de critères, tout simplement de manière à ce que ce couple puisse se construire, puisse évoluer et puisse jouer sa place. Abraham comprend que l'histoire du clan d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël ne s'écrira pas uniquement à partir d'Yitzhak, mais également à partir de celle qui l'accompagnera dans ce projet de vie de son épouse. Et donc on va nous raconter dans quelles circonstances va se passer cette rencontre avec sa future épouse. Et puis à la fin de la paracha, on reviendra nous parler de la descendance d'Ishmaël, mais vraiment retenons que la quasi-totalité de notre sidra est consacrée au shidour, à la rencontre entre Yitzhak et sa future épouse Rivka.
Alors on va revenir, vous l'avez dit au début de la paracha, on parle de la mort de Sara, et le Targum Yonatan donne une explication quant au décès de Sara, parce que lui il dit exactement comment c'est passé.
Alors tout à fait, c'est une explication très intéressante, très connue, hein, qui est rapportée par le Midrash, également qui nous dit qu'il y a un lien extrêmement ténu entre l'épisode de la Akedat Yitzhak, dont nous a parlé la fin de la paracha de la semaine dernière, de la ligature d'Yitzhak, et le décès de Sara. Et que c'est en, en apprenant que Yitzhak était allé se faire sacrifier par son père, que Sarah a eu un choc finalement qui lui a coûté la vie, vu bien sûr le lien de proximité et d'affection qu'elle entretenait avec son fils Yitzhak. Pour autant, et tous les commentateurs sont d'accord là-dessus, Sarah était arrivée à la fin de sa vie, hein. Elle n'est pas morte subitement à cause de cela, mais c'est tout simplement, et je crois que c'est très beau aussi de l'expliquer de cette manière, on va dire que cette annonce a été la cause du décès de Sarah, qui devait de toute façon mourir à ce moment-là, et le fait qu'elle soit morte en apprenant cette nouvelle montre, et on n'a pas le temps, on pourrait en parler longtemps, montre le lien. C'est intéressant hein, de voir le lien particulier qui existe entre Sarah et Yitzhak. Bien sûr, il y avait un lien fort aussi entre Avraham et son père, mais en matière, on va dire, de qualité humaine, en matière de capacité finalement à voir les choses, à appréhender le monde, eh bien, il y avait un lien tout à fait particulier et tout à fait fort entre Sarah et son fils Yitzhak. Et donc, il fallait presque dans l'histoire finalement que Sarah puisse quitter le monde par un lien de proximité, par une histoire forte finalement avec Yitzhak.
Mais on dit qu'elle est morte... contente, ou en tout cas heureux.
Apaisée,
voilà.
Apaisée, sereine de savoir que son fils était capable d'un tel sacrifice, finalement, comme elle. Sarah aurait été sans doute capable aussi d'un tel sacrifice. C'était dans son esprit, dans ce qui animait Sarah, avec un peu, on le sait, hein, Sarah a été un petit peu le métronome aussi d'Avraham dans sa vie. Avraham qui était un homme qui était uniquement bonté, qui avait parfois du mal à pondérer certaines actions et certaines choses. Et Sarah a su parfois dire à Avraham certaines choses que peut-être d'autres ne lui auraient pas dit. Elle a su lui faire prendre parfois certaines décisions qu'Avraham n'aurait peut-être pas été en mesure de prendre tout seul, parce qu'il était un petit peu influencé par cet excès de bonté, de générosité, de chesed qui l'animait et qui lui faisait peut-être, qui altérait en tout cas un petit peu son discernement. Et donc, Sarah a été cette femme capable de lui dire certaines choses, et elle voit que Yitzhak a l'air justement de poursuivre dans cette voie. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, c'est quelqu'un qui est capable bien de se donner pleinement pour certaines valeurs. Et donc, lorsque Sarah voit ça, lorsqu'elle en a la confirmation, alors c'est vrai, annoncé par le Satan qui lui ne pensait pas faire à ce moment-là une bonne action, il pensait plutôt semer le trouble, mais en tout cas, lorsque Sarah intègre cela, elle peut partir de ce monde sereinement.
Alors, on va aller un peu dans la paracha un peu plus loin. Alors, il y a un commentaire qui m'a un peu étonné. Où nos sages nous enseignent qu'un homme doit redouter la mort lorsqu'il atteint les 5 ans précédant l'âge où ses parents sont décédés. Ça veut dire que je peux savoir à peu près à quelle heure ou à quel âge ou à quel moment je vais décéder.
Alors, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va décéder, Jean. C'est, je pense, simplement du bon sens. Voilà. C'est du bon sens. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques.
Ouais, d'accord.
On est finalement le produit aussi de... on est le produit de ce que sont nos parents, hein, d'un point de vue génétique. Ouais. Donc forcément, tous ces facteurs-là jouent et peuvent influencer sur notre santé.
À dire, si j'ai quelqu'un qui meurt à 93 ans, il faut que je pense qu'à 85 ans, je peux mourir.
Voilà, il y a une idée, c'est important finalement qu'un homme puisse se rappeler à certains moments clés de son existence, qu'il n'est pas éternel, qu'il doit se remettre en question, qu'il y a une introspection à faire. C'est très très important. Et lorsqu'un homme avance en âge, eh bien, c'est important déjà d'y penser quelques années. Alors, on prend cet âge de référence qui est celui des parents pour toutes les parties des raisons que j'ai expliquées, mais qui permet en tout cas à un homme de se rappeler qu'il n'est pas éternel. C'est très très important parfois lorsque la vie avance. Hein, y a soit,
et pourquoi 5 ans
soit la possibilité d'être effrayé au quotidien finalement et de vivre bridé parce qu'on a peur de partir à chaque instant, soit à l'inverse finalement, avoir tendance à oublier que nous ne sommes pas éternels, que nous devrons un jour rendre des comptes et qu'on devra dresser un bilan un petit peu de ce qu'on a fait sur Terre. Donc c'est important de s'en rappeler.
Alors on va parler d'un épisode qui est aussi important et qui est aussi intéressant pour nous, c'est qu'on voit qu'Abraham veut enterrer Sarah extrêmement vite. C'est pratiquement à la suite de son décès. Il est important pour tout le monde, même de nos jours, d'enterrer des personnes rapidement.
Alors oui, c'est une mitzvah qui est écrite clairement dans la Torah, hein, que nous apprenons d'un autre contexte, qui est celui d'ailleurs d'une personne qui, pour le coup, a été tuée par rapport à un crime qu'elle a commis. Et on nous dit qu'il y a donc une interdiction de laisser cette personne-là, enfin le cadavre de cette personne-là, voilà, trop longtemps, on va dire, à la vue des personnes, à la vue des gens. Et de ce verset-là que nous apprenons l'obligation d'enterrer rapidement. Il faut savoir qu'il y a dans notre tradition...
Encore aujourd'hui.
Bien sûr, parce qu'il y a dans notre tradition une idée extrêmement importante que lorsque la neshama, lorsque l'âme se sépare de son enveloppe, de ce corps qui l'a accueilli, avec lequel elle a vécu, hein, avec plus ou moins d'harmonie pendant un certain nombre d'années, eh bien, chacun doit rejoindre son emplacement. Il est très important que cela se fasse le plus rapidement possible parce que l'âme, la neshama, souffre lorsque cette séparation est trop longue.
Ah ouais?
Voilà, lorsque, on va dire, lorsque chacune de ces deux dimensions aura rejoint sa place d'origine, eh bien, il y a une forme de sérénité, une forme d'apaisement qui se met en place, ce qui n'est pas le cas lorsque cette séparation prend du temps. Et d'ailleurs, ces gens, vous le constaterez, c'est tout à fait vrai lorsque deux personnes, si je voulais un petit peu rapporter une parabole, mais lorsque deux personnes s'apprécient, lorsque deux personnes s'aiment, qu'elles doivent à un moment donné se quitter, que ce soit pour un temps donné ou que ce soit de manière un petit peu plus longue, comme cela arrive parfois dans la vie, hein, les circonstances de la vie peuvent nous amener à nous séparer, eh bien, vous voyez que plus on fait traîner finalement cette séparation et plus cette douleur est grande. C'est une question qu'on avait aussi posée, il me semble, lors des fêtes de Soukhot, lorsqu'on voit que Dieu a consacré un dernier jour, le jour de Shminat Seret, pour rester un peu plus longtemps, profiter avec ses enfants. On avait posé cette question de se dire, mais finalement, le fait d'entretenir un petit peu ce contact et de ne pas être capable à un moment donné de se séparer, eh bien, ça va exacerber la difficulté à se quitter. Finalement, plus on se contacte et plus on a de mal, plus cette séparation est douloureuse. Donc parfois, lorsqu'on est arrivé au terme d'une cohabitation, bah, il faut savoir l'acter le plus rapidement possible de manière à ce que les choses ne se fassent pas de manière douloureuse.
Alors, pour acheter la sépulture, Abraham se trouve devant les enfants de Rett. Éphron était dans le groupe des enfants de Rett et pourtant, Abraham ne lui demande pas directement, il demande aux familles de Rett d'intercéder auprès de Éphron pour lui demander de vendre le terrain. C'est un peu compliqué, moi, si j'ai quelqu'un en face de moi, je lui dis en face.
Tout à fait, c'est un peu compliqué. Vous avez raison, c'est compliqué, c'est alambiqué, c'est de manière extrêmement surprenante. Ouais. Et la quasi-totalité des exégètes se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'Abraham procède d'une manière détournée? Pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas directement au propriétaire pour acter simplement cet échange? Alors, on a plusieurs réponses qui sont proposées. La première était de dire que, en vue de l'importance d'Éphron, il était irrévérencieux, ce n'était pas dans les codes de l'époque, de s'adresser directement à lui. Il valait mieux peut-être un petit peu tâter le terrain et s'adresser à d'autres personnes pour qu'elles viennent prendre la température auprès d'Éphron et voir si ce grand notable était prêt à se séparer de quelque chose qui avait une grande valeur, pas simplement une valeur pécuniaire ici, mais aussi une valeur sentimentale. Hein. On est en train de parler de patrimoine. Dès qu'on parle de patrimoine, on dépasse largement le cadre uniquement de ce qui a une valeur pécuniaire, comme je l'ai dit, mais quelque chose aussi qui est sentimental. Et donc, c'était finalement la manière de faire. Il y a une deuxième réponse que je vous propose aussi rapidement, qui est proposée par le Osnaïm la Torah, qui nous dit que les Chittim, hein, les Chittéens, contrairement à d'autres, comme Avimeler, qui lui avait jugé nécessaire de passer une alliance avec Abraham, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, pour se protéger, parce qu'il donnait énormément de crédit à la promesse qui avait été faite par Dieu à Abraham de lui donner toute la terre de Canaan. D'autres peuples qui habitaient cette terre ne prenaient pas du tout cette promesse au sérieux. Et donc, il avait été fait interdire, notamment par les Chittéens, justement, par les Chittim, de vendre à qui que ce soit, enfin de vendre en tout cas à Abraham, quelque parcelle que ce soit. C'est la raison pour laquelle Abraham s'est d'abord adressé aux anciens, qui étaient les législateurs, de manière à ce qu'eux puissent lui donner une autorisation exceptionnelle et qu'une fois cette autorisation exceptionnelle reçue, il puisse la présenter à Éphron. Donc c'est tout simplement pour des raisons techniques qu'Abraham s'adressait aux anciens.
Alors Éphron a fait, on va dire, un peu de cinéma.
Du cinéma. Disons,
je vais te donner le terrain gratuit. Et finalement, il demande 400 shekels. Je ne sais pas ce que ça a représenté à l'époque. C'était une grosse somme, une petite somme.
Alors 400 shekels, c'est une grosse somme d'argent à titre de comparaison. Et on le verra plus tard. C'est pas très très long, c'est, on va dire que c'est pas très loin plus tard dans l'histoire. Yaakov achètera à Laban un terrain pour beaucoup moins cher. Pour 25 shekels, là on parle de 400 shekels. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais on peut pas comparer les époques parce que ça dépend de beaucoup de choses. Les devises évoluent, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. Alors, je suis pas un économiste, il y a l'inflation, enfin il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agissait d'une somme énorme, d'autant plus qu'ici il s'agissait de shekels pleins, ce qui fait qu'on pourrait même multiplier cette somme, d'après certains, par 2500, donc ça ferait 1 million de shekels. Je ne sais pas ce que ça représenterait aujourd'hui en euros, mais en tout cas c'était une somme qui était importante, parfaitement, pas simplement importante, qui était totalement exagérée, qui ne reflétait absolument pas la valeur réelle de cet endroit.
Alors, on va passer un peu à la suite.
Rappelons quand même que pour Avraham, cet endroit, finalement, n'avait presque pas de valeur quantifiable, parce qu'il était tellement important qu'il était prêt à y mettre n'importe quel prix.
Autre question, est-ce que c'est le rôle des parents de chercher une épouse ou un époux à ses enfants? C'est aux enfants d'aller chercher leur époux, les parents, comme le fait Avraham?
Alors c'est vrai qu'avec nos yeux de lecteurs du 21e siècle, on peut être extrêmement choqué, perturbé par ce que nous raconte la paracha de Chayé Sara et cette démarche d'Avraham de mandater son fidèle serviteur Eliezer pour trouver une épouse pour son fils. Hein. Son fils n'est plus un enfant, rappelons-le à ce moment-là, Jean. Ouais, on ne parle pas d'un petit garçonnet de 10 ans. Et donc on peut se dire qu'il est suffisamment grand, suffisamment mature. Hein. Il sera quand même quelqu'un qui a déjà vécu certaines choses importantes dans sa vie. Il a vécu la Akedat Yitzhak, il a vécu des choses qui vous font forcément gagner en maturité. Et donc on peut se dire qu'un beau jeune homme comme lui, qui a déjà un certain âge maintenant, qui serait aujourd'hui, à notre époque, déjà qualifié de vieux célibataire, qu'il est parfaitement en mesure de se prendre en main et qu'il n'a pas besoin de son papa. Pour autant, je pense qu'il est... Alors déjà, rappelons qu'il s'agit... Il ne s'agit pas de n'importe qui ici, il s'agit d'Yitzhak, on parle d'Avraham et d'Yitzhak, donc on est en train de parler de deux des premiers maillons d'une chaîne qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui, qui continue à se développer, à s'écrire. Donc il était très très important qu'Avraham, qui était en quelque sorte un petit peu, pas simplement ici le chef de famille, mais plus que ça, il était le fondateur presque de ce nouveau mouvement que représentait le clan Israël, qu'il puisse donner certains conseils et qu'il puisse prendre part finalement à cette décision importante qui allait conditionner la suite du projet. Projet duquel il était à l'origine. Mais d'une manière générale, sans vouloir choquer les parents d'aujourd'hui, oui, il est tout à fait de la responsabilité des parents de faire en sorte que l'histoire, après eux, puisse continuer à s'écrire. Alors bien sûr, on vit dans une époque où on discute, où on est capable d'échanger, on est capable de communiquer, on est capable, bien sûr, de demander conseil. Il n'est pas question ici de forcer qui que ce soit à quoi que ce soit. Et on le verra, bien sûr, on le verra par la suite. On ne forcera pas et on demandera son avis aussi à Rivka. Et bien sûr, un mariage ne se fait jamais. Il ne s'agit pas du tout ici d'un mariage forcé. Et ça, tout cela se fait avec le consentement d'Yitzhak. Mais il est important que les parents prennent conscience qu'en donnant une certaine liberté, une certaine autonomie à leurs enfants, il est de leur devoir aussi de continuer à transmettre certaines valeurs et de faire en sorte que l'histoire puisse continuer à s'écrire après eux.
On va faire un grand bond, on ne va pas raconter toute l'histoire d'Eliezer, c'est trop long. Il y a Eliezer donc, qui se rend près d'un puits d'eau, ça, on dirait que c'est un endroit où on peut rencontrer des jeunes femmes. Il rencontre Rivka, qui correspond, on va dire, aux critères qu'il avait lui-même décidé pour la future femme d'Yitzhak. On voit que c'est fait très, très simplement, très rapidement. Alors, est-ce qu'il y a eu un miracle ou pas? Est-ce que Dieu était là ou pas?
Alors, bien sûr que Dieu est là. Alors, c'est compliqué parce que c'est la démarche d'Eliezer qui est choquante. C'est-à-dire qu'Eliezer, plutôt que finalement partir à la recherche de cette jeune fille, avec tous les critères qu'il a en tête et toutes les indications qu'Avraham lui a données, eh bien, Eliezer va un petit peu, on a l'impression, faire appel, se faciliter le travail, en demandant à Kadosh Baruch Hu de lui-même lui choisir cette femme-là, et presque en lui posant un ultimatum. Ça, ce qui est un peu choquant dans la démarche d'Eliezer, c'est qu'Eliezer semble jouer avec quelque chose de très très dangereux, d'explosif, mais qu'en plus il a l'air presque de mettre un ultimatum à Kadosh Baruch Hu en lui disant: écoute, voilà, la femme que tu m'indiqueras, qui fera ci et ça, ce sera la femme qui sera tout à fait bien pour Yitzhak. Alors c'est choquant parce que ça a l'air d'être vraiment ce qu'on appelle du nichouche, quelque chose qui s'apparente un petit peu à de la divination et qui est totalement interdit dans notre tradition, sauf que là il y a un rapport. il y a un rapport extrêmement ténu entre ce que demande Yitzhak à Akadosh Baruch Hu et l'objet finalement de cette demande. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un rapport entre ce qu'il exige, à savoir les qualités qu'aura la jeune fille, et ce qu'il souhaite donner comme suite finalement à ce projet. Donc ce qui nous fait sortir un petit peu du statut de Nihouche. La deuxième chose, c'est la crainte, le deuxième point qui est important à souligner pour répondre à cette question, c'est la crainte qu'avait Yitzhak par rapport à la famille de Rivka, de se voir tout simplement formuler une fin de non-recevoir, en disant mais finalement qui tu es toi pour vouloir ramener notre fille Yitzhak et la ramener au fils de ton maître. Nous on a besoin de quelque chose de plus fort pour accepter cela. Et le fait qu'on puisse le présenter ici vraiment comme quelque chose qui était tout, l'expression de la volonté divine, était beaucoup plus convaincant et qui donnait peut-être plus de légitimité à ce projet.
J'ai deux questions. La première question, c'est dans la Torah, vous l'avez dit, il y a une grande partie où on explique l'histoire du désert, et après on a la deuxième partie où Eliezer raconte à Laban la même chose qu'il a dit, qui s'est passé. Alors c'est un peu redondant. Ça sert à quoi, nous, on connaît l'histoire.
C'est redondant, c'est rébarbatif. On le lit à chaque fois, bien sûr, on se pose toujours la même question. Pourquoi est-ce que la Torah revient nous raconter une deuxième fois l'histoire? C'est bon, elle a déjà entendu une première fois. Est-ce qu'on a besoin de réentendre, de réécouter la même histoire, interprétée cette fois-ci par Eliezer? Alors, deux réponses. La première réponse, très rapidement, c'est tout simplement qu'on a voulu donner du kavod, on a voulu faire honneur à Eliezer. Eliezer a été, durant toute sa vie, quelqu'un d'extrêmement exemplaire. Il a été modeste, il a été... absolument loyal et d'une grande fidélité à Avraham Avinu. On sait qu'il y avait des intérêts personnels croisés, on ne les a pas évoqués aujourd'hui, on les a évoqués les années passées, mais Eliezer avait aussi une fille qu'il avait du mal à marier. Il a mis ses intérêts personnels de côté, parfois avec une certaine... ça aurait pu être avec une amertume, justement, il ne l'a pas fait avec amertume, en tout cas avec toute la douleur que l'on peut imaginer, mais il a su les mettre de côté parce qu'il savait que ce n'était pas dans l'intérêt commun et dans l'intérêt de son maître. Et donc on a voulu lui faire kavod, et le fait de rapporter ce récit, même si ça rallonge un petit peu le récit de la Torah, eh bien, c'était une marque de respect. La deuxième réponse que je rapporte très rapidement, elle est que si vous regardez le récit d'Eliezer, vous verrez qu'il y a des petites différences. Et ces petites différences, elles sont très importantes. Je vous invite, à les étudier parce que vous pouvez apprendre de chacune de ces différences un certain nombre de leçons de vie. Et donc, finalement, on se rend compte que écouter le récit par Eliezer, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et quelque chose, en tout cas, qui peut nous permettre de voir l'histoire et de l'appréhender différemment.
Donc, vous l'avez dit, Rivka, finalement, décide de suivre Eliezer pour marier Yitzhak. On apprend qu'Abraham se remarie avec Keturah, qui est en fait Agar. Et quand on parle de la mort d'Abraham, le texte dit « Abraham a vécu 70,5 ans. Est-ce que Dieu a eu des problèmes pour faire le compte en entier?
Alors, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, Jean, cette manière de décompter la vie d'une personne?
Il y a d'autres...
Sarah, tout simplement. Ouais. Sarah qui quitte ce monde au début de la paracha et dont
mais d'habitude,
le décompte est fait de cette manière.
Dit,
Tout à fait, mais pour Sarah, on nous dit également qu'elle a vécu 127. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait des rapprochements entre les 100 ans et les 20 ans. Entre les 20 ans et les 7 ans. Sur l'intégrité morale, sur la beauté physique pour Sarah. C'est exactement la même chose pour Abraham. Abraham n'a pas vécu 3 périodes. On a voulu nous dire qu'Abraham était à 100 ans comme il l'était à 70. À 70 ans, c'est la vie que l'on prête à une personne normale, telle que c'est rapporté par nos maîtres. Et donc, normalement, à 70 ans, eh bien, il y a une certaine forme de sagesse qui prend le dessus. On essaye d'éviter de faire des fautes parce qu'on sait qu'on va mourir. Eh bien, Abraham, à 100 ans, lui, avait encore cette intégrité morale qu'on peut avoir à 70 ans, capable de fauter. Il était resté exactement le même.
Et 5 ans.
Il était à 70 ans, comme il était également à l'âge de 5 ans. Donc c'est vraiment important de le rappeler, parce que tout simplement, on tient à montrer à quel point une personne, finalement, lorsqu'elle produit des efforts, lorsqu'elle a travaillé sur ses qualités et sur ses défauts, eh bien, est capable de traverser la vie vraiment en évoluant, en progressant et sans aigreur, sans être forcément attiré par la faute ou sans volonté de s'écarter de la route qu'elle s'est fixée. C'est ce qu'on a voulu nous dire à travers de la vie d'Abraham. Il était à 100 ans comme il était à 70 ans, à 70 ans comme il était à 5 ans. Il n'a fait qu'évoluer, il n'a fait que progresser et à aucun moment, sa vie a reflété quelque chose de différent de ce qu'il avait souhaité être lorsqu'il a eu cette grande et belle rencontre avec Akadosh Baruch Hu.
Voilà, à la fin de la paracha, c'est la descendance d'Ishmaël et de son décès. On parlera de la semaine prochaine d'un nouveau parage. Alors, il faut le dire, M. Grand-Rabbin, il y a beaucoup de sujets. C'est difficile de rentrer dans tous les sujets. On fait des choix, malheureusement, très droits. On essaie d'être le plus général possible. Mais, comme vous le dites souvent, allez étudier les textes. Ils sont tout aussi intéressants. Merci beaucoup. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Merci, M. Grand-Rabbin, et à la semaine prochaine.